Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
La suite dans les idées, Sylvain Brumeau. Ce vendredi, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé l'extension du RSA sous condition à de nouveaux territoires. Ce sont désormais la moitié des départements français qui sont concernés par cette mesure avant sa généralisation totale annoncée pour 2025. Les bénéficiaires du RSA sont donc invités à réaliser 15 à 20 heures de formation, de stage, d'insertion en contrepartie de l'allocation. Cette actualité est l'occasion de reposer des questions. Question classique, la collectivité doit-elle verser de l'argent aux personnes sans revenus et ne doit-elle le faire qu'à certaines conditions? Eh bien, les économistes ont pris l'habitude de s'arroger les réponses à ces interrogations, mais tous ne le font pas de la même manière et certains sont particulièrement inspirés d'enrichir l'économie de la pauvreté en y ajoutant une réflexion plus large, notamment en termes de théorie politique. C'est le cas de Guillaume Allègre, il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. L'économiste Guillaume Allègre, chercheur au centre de l'Observatoire français des conjonctures économiques, le centre de recherche en économie de Sciences Po, qui sera rejoint en seconde partie par une poète, Natio, qui publie simultanément deux ouvrages aux éditions La Contre-Allée, Bonjour, suivi de Hot Dog, et Le Bercail, deux livres. Un en particulier qui traite de ces questions de précarité, de pauvreté. On s'en rendra compte dans la deuxième partie de l'émission. Bonjour Guillaume Allègre.
Bonjour Sylvain Brumeau.
Vous êtes donc, je le disais, économiste, mais vous publiez aux Presses universitaires de France un livre qui est certes un livre d'économie, mais aussi, j'en disais un mot, un livre de théorie politique à certains égards. C'est pas tout à fait un hasard. Vous aviez co-dirigé avec Philippe von Parijs un livre sur la question du revenu universel, qui lui est plutôt un philosophe de la politique. Et c'est vrai que ces questions qui sont posées aussi par des philosophes, par des politistes, par des théoriciens de la politique, par des sociologues, sont des questions qui, comme économiste, vous intéressent et vous donnent l'occasion d'observer la façon dont vos collègues économistes se posent ces questions, tentent d'y répondre, pas tous de la même façon. Et donc ce livre, au fond, à la fois apporte beaucoup de choses sur la question de la pauvreté, mais aussi l'occasion d'une réflexion sur ce que peut et ce que doit la science économique, d'une certaine manière.
Voilà, exactement. Donc le livre s'appelle « Comment verser de l'argent aux pauvres ». Donc j'essaye dans l'ouvrage de répondre à la question assez directement. Et vous avez mentionné le revenu universel. Donc le revenu universel qui est un versement à tous, pas qu'aux pauvres, inconditionnel, universel. Et en France, on verse un revenu d'assistance sous forme de RSA qui est conditionné, ciblé sur les pauvres, versé au niveau du ménage et pas aux individus. Et donc la question, j'essaye de répondre pourquoi est-ce qu'on fait ça
plutôt que d'autres choses. Verser à tout universel, voilà. C'est par exemple, vous prenez l'exemple, c'est Madame Arnault, la femme de Bernard Arnault, toucherait le revenu universel.
Voilà, exactement, ça serait universel, du coup, et pas ciblé sur les plus pauvres. Donc j'essaye de répondre à cette question pratique de pourquoi est-ce que on le verse comme ça et finalement tous les pays qui ont des revenus d'assistance le versent comme ça, c'est-à-dire de façon ciblée, familialisée,
sous condition.
Et les conditions peuvent dépendre. Mais comme vous le disiez, j'essaye aussi de répondre à la question comment en tant qu'économiste, donc c'est aussi un livre d'économie. Comment, en tant qu'économiste, est-ce que je peux répondre à cette question normative de ce que l'on devrait faire? Voilà, c'est pas, l'idée n'est pas que de décrire, et il y a quelques descriptions aussi de statistiques, mais qu'est-ce qu'on devrait faire et comment, en tant qu'économiste, est-ce qu'on peut répondre à cette question normative?
Vous la posez parce qu'en fait, vous êtes souvent sollicité en tant qu'économiste, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, les gens qui sont en situation de définir des politiques publiques se tournent souvent vers les économistes, davantage que vers d'autres chercheurs en sciences sociales, pour leur demander ce qu'il faut faire, en fait.
Exactement. On est plus proche de l'économie, et en tant que chercheur en économie, on est beaucoup plus proche de la décision politique, et on se pose, et on nous pose la question de normatif, de ce que l'on devrait faire. Donc récemment, effectivement, j'étais une audition pour la commission, une commission parlementaire à l'Assemblée nationale sur la question des classes moyennes. On nous pose de façon relativement ouverte, qu'est-ce qu'on devrait faire pour les classes moyennes, ou sur la fiscalité récemment, qu'est-ce qu'on devrait faire en matière d'impôt sur le patrimoine. Donc on nous pose cette question normative beaucoup plus qu'aux historiens, aux sociologues ou aux sciences politiques. Et finalement, il n'y a pas vraiment de règles qui ont été édictées pour répondre à cette question. Alors généralement, vaut mieux évidemment le faire de façon transparente et honnête. Mais
voulez dire qu'il y en a qui disent, attendez, moi je vais être simplement descriptif, et qui en fait sont prescriptifs, parce que c'est très compliqué de démêler le descriptif du prescriptif parfois.
Alors il y a ça, et puis il y a pire, parce que parfois il peut y avoir aussi des séminaires qui commencent comme je vais essayer de ne pas imposer, ou je ne vais pas imposer mes normes, et qui finissent par des propositions de politique publique très précises. C'est-à-dire que l'économie parfois fait du normatif sans normes. C'est-à-dire que ça c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut répondre en tant qu'économiste à cette question, et comment est-ce qu'on peut répondre à la question du politique? Et là, il me semble qu'il y a deux écueils. Le premier écueil, ça serait celui du tout calcul économique. C'est celui que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on pourrait répondre à la question de ce qu'on devrait faire en faisant un calcul économique.
On pourrait tout mettre en équation, à la limite.
On met tout en équation, et puis à la fin,
chiffres, et donc on...
Voilà. Exactement. Et donc sans normes. Ce que je disais, c'est du normatif sans normes. Donc ça, c'est le premier écueil. Et le deuxième écueil, ce serait le tout politique. C'est-à-dire que finalement, une sorte de cynisme, on est un peu machiavélique ou gramscien, comme on dit aujourd'hui, et donc on répond de façon politique. C'est la bataille culturelle. Il y a pas, en fait, finalement, l'économie ne serait qu'une rhétorique, et donc tout est permis au final. Et entre les deux, je pense que entre le calcul politique et le calcul économique, je pense qu'il faut, en tant qu'économiste, on doit arguer par l'équité et par la justice au sens de Rawls.
Et donc ça, cette question de la justice sociale, vous la posez, vous la posez pas tout à fait de la même façon, ou plutôt vous la posez éventuellement de la même façon qu'un philosophe comme John Rawls, mais vous n'y répondez pas nécessairement avec les mêmes outils, vous le faites avec les outils de l'économie. Vous la posez en l'occurrence s'agissant de cette question du revenu, qu'il s'agisse du revenu universel ou du revenu d'assistance.
Voilà, alors...
dans ce livre.
Exactement. Donc, évidemment, pour répondre à comment verser de l'argent aux pauvres, faut aussi répondre à la question de pourquoi verser de l'argent aux pauvres. Et là, on peut reprendre... tout est dans Rawls, on peut dire. On peut reprendre la théorie politique. Je ne fais pas vraiment de théorie politique.
Il y a des implications de théorie politique dans le livre.
Je reprends la théorie politique de Rawls, et puis je l'applique à cette question-là précise dans un contexte actuel, et pour les pays occidentaux, notamment la France. Et donc là, l'idée, c'est de dire pourquoi verser de l'argent aux pauvres. Eh ben parce que, et ça, c'est une réponse que je reprendrai à Dominique Méda aussi, elle a dit récemment, parce qu'on fait société, et comme on fait société, on doit prendre soin de tout le monde dans la société. Je pense que ça, c'est une réponse qui est finalement la plus commune. C'est-à-dire qu'il faut partir, l'idée quand je dis qu'il faut arguer du point de vue de la justice, c'est-à-dire qu'il faut partir de sentiments de justice qui sont relativement commun. Et la raison pour laquelle on verse en France un revenu d'assistance, c'est justement pour donner une assistance aux pauvres. Voilà. Et donc c'est pour ça, c'est pour reprendre un petit peu, pour mener un petit peu l'argument jusqu'au bout, c'est pour ça que si on dit c'est fait parce qu'on fait société ou pour des questions d'assistance, alors là, la question du revenu universel est un petit peu plus difficile à défendre. Un revenu qui serait égal, parce que comme vous l'avez dit en introduction, on la donnerait aussi à la femme de Bernard Arnault. Et donc là, effectivement, l'intuition, c'est que ça pose problème.
Alors, je commençais cette émission avec l'actualité, puisque le Premier ministre a annoncé la poursuite, au fond, d'une expérimentation sur l'élargissement qui concerne le RSA. Peut-être ce serait bien, pour comprendre la logique politique qui préside à cette réforme qui est testée et qui a vocation à être généralisée, qu'on remette ça en perspective historique. Et vous le faites dans votre livre, vous nous permettez de comprendre, au fond, ce que c'est que le RSA, la philosophie qui sous-tend ce revenu et qui est la suite du RMI. Le RMI a été un moment politique important. On sait que c'est le gouvernement de Michel Rocard qui l'a mis en place à la fin des années 80, début des années 90.
C'est voté en 88, décembre 88, mis en place en 89.
Voilà. Et donc ça, c'est un moment politiquement important, parce que c'est la première fois qu'on a affaire à un revenu de ce type-là.
Oui, voilà. Et en France,
bien sûr.
On est parmi les derniers à
l'avoir mis en œuvre. Oui.
Un revenu minimum pour les personnes âgées actives. Hein. Il y avait d'abord.
Il y avait le minimum vieillesse qui existait.
Voilà, il y avait le minimum vieillesse et aussi l'allocation adulte handicapé. Donc on retrouve aussi, parce que vous parlez du RSA, qu'on renforce la conditionnalité, aussi le montant de base du RSA relativement au salaire et au SMIC a beaucoup baissé depuis une quinzaine d'années, ce qui n'est pas le cas pour l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse, qui ont été revalorisés de façon plus dynamique que le RSA. Et donc on retrouve un petit peu la distinction assez classique entre les pauvres méritants, donc ceux à qui on a donné avant et qui aujourd'hui on donne, à qui on donne plus, hein, à moitié plus, l'allocation adulte handicapé et le minimum vieillesse est moitié plus que le RSA, que le montant de base du RSA. Et donc on retrouve là cette distinction. Et donc en 88, effectivement, c'est un grand changement, parce que il n'y avait pas ce minimum en France. On le retrouvait dans les pays libéraux. Certains pays libéraux et scandinaves, mais dans des pays plus corporatistes, on voulait plutôt défendre les corporations, les travailleurs, plutôt que la pauvreté d'âge actif directement. Et ce qui est intéressant, c'est que donc en décembre 88, lors du vote en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, il y a une unanimité à ce moment-là,
tous les partis politiques votent,
tous les partis politiques et tous les députés votent en faveur du RMI. Et donc, quand on pose la question aux gens et quand on délibère, là, on a vu aussi la semaine dernière que la délibération, c'était important, parce que le Sénat, c'était pas forcément parti pour que la future loi constitutionnelle soit votée. Et finalement, après délibération, elle a été votée. Et là, pareil, après délibération, on a retrouvé une unanimité sur ce sujet-là.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire que donc ce moment est assez fondateur, la création du RMI à l'initiative de ce gouvernement Rocard, mais soutenu par une unanimité au Parlement à l'époque. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de ce revenu minimum depuis 1988 est l'histoire d'un amenuisement, vous le disiez, à la fois amenuisement en termes de niveau de ce revenu, comparé au salaire, au SMIC par exemple, ou comparé à d'autres types de revenus, vieillesse ou adulte handicapé, mais également amenuisement en termes d'augmentation de la conditionnalité de ce revenu. Et là, on en a une nouvelle illustration avec la réforme qui est en train d'être testée actuellement.
Exactement. Il y a les deux aspects. À la fois, plus d'incitations. Donc, il y a deux aspects aux incitations. C'est une baisse
du montant
et aussi la prime d'activité qui est là, qui est un petit peu la carotte, et un renforcement de la conditionnalité qui a eu lieu en deux étapes, hein, avec la mise en place du RSA.
À la place du RMI, donc.
À la place du RMI, et puis là, maintenant, le renforcement de la conditionnalité. Ce qu'il faut voir en 88, c'est que le rapporteur a vu que, et les rapporteurs ont vu que la loi pouvait être votée de façon unanime. Et on recherchait l'unanimité, au moins parmi les groupes, dans les groupes représentés. Et donc, il y a eu une négociation à ce moment-là, pour que, la droite vote avec la gauche. En fait, la gauche était majoritaire. Et, s'ils avaient fait comme, et en plus, la majorité à gauche, ils n'ont pas voulu être maximalistes parce que la majorité parmi les majoritaires aurait peut-être voulu mettre en place un instrument, qui n'était pas du tout conditionnel, hein, donc de type
revenu universel
et d'autres caractéristiques qui finalement n'ont pas eu lieu. Il y a eu une négociation et la droite a dit on va voter ce texte, mais on veut qu'il y ait une conditionnalité. Et donc, à ce moment-là, la conditionnalité qui a été négociée, en fait, c'est une conditionnalité relativement faible et ex post, dans la mesure où, finalement, vous receviez la prestation avant de montrer quoi que ce soit, et avec des sanctions qui étaient relativement... très très rare, en fait. Et donc, voilà.
Et qui dépendait d'un contrôle après coup.
Après coup, oui.
Alors, donc ça, c'est... C'est l'histoire politique de cette mesure et de son évolution dans le temps. Cette évolution, elle s'est faite, et c'est là que entre en jeu votre rapport, votre réflexion, elle s'est faite en s'articulant à des discours économiques et à des formes d'expertise économique, puisque différents économistes ont pu être sollicités ou se sont eux-mêmes saisis de cette question. Et c'est en s'appuyant sur leur réflexion que s'est trouvé justifié au plan politique, par exemple, cette évolution.
Oui, alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu une montée en charge relativement rapide du RMI après 88, en 89, quand il a été mis en place. Et donc, on s'attendait plutôt à 500 000 bénéficiaires. Et très, très vite, on arrive à 1 million de bénéficiaires. Et on découvre une nouvelle pauvreté, en fait, qui n'existait pas aux yeux de statistiques.
Et pourtant, un certain nombre de gens qui ont droit ne le demandent pas, par ailleurs. Ça, c'est un autre...
Et encore à l'époque. Donc, aujourd'hui, il y en a deux fois plus. Et encore depuis 25 ans. Et parce que le recours a encore le non recours a diminué et encore aujourd'hui, alors qu'il a diminué de façon probablement très importante depuis le début des années 90, encore aujourd'hui il y a sur un trimestre donné 35% de non recours,
c'est-à-dire de gens qui ont droit à toucher ce revenu et qui le demandent pas.
Voilà, exactement. Et donc il y a une augmentation très rapide du nombre de bénéficiaires du RMI, beaucoup plus rapide de ce que était entendu, avec une nouvelle, finalement, pauvreté plus active que les statistiques, les CAF ne connaissaient pas. Donc, pauvreté plus active, plus urbaine.
Et plus active, je traduis, ça veut dire composé de gens qui sont par ailleurs actifs, c'est-à-dire qui ont une activité professionnelle, mais qui néanmoins sont pauvres.
Peuvent l'être, ouais, ou actifs, ou chômeurs.
Partiellement
actifs, donc les chômeurs sont actifs.
Une forme de précarité.
D'âge actif, quoi. Et donc, à partir de là, se posait la question de est-ce que l'instrument marche ou non. Et en fait, les premières personnes qui ont évalué le RMI, parce qu'en fait, le RMI était voté avec une clause de revoyure, un rapport, il y avait un rapport qui devait être écrit, et avec une clause de revoyure, donc il fallait revoter la loi pour que ça continue à être mis en place. Et dans ce rapport, il disait, ça marche très bien parce qu'on touche beaucoup de gens, en fait. On touche beaucoup de gens qu'on touchait pas avant, et donc
c'est
la preuve que ça marche bien, et que c'était nécessaire. Mais, à partir du même moment, il y a eu quand même une critique des économistes qui disaient, non, parce qu'en fait, on veut pas 1 million à 2 millions de personnes qui, dans ces revenus revenu d'assistance. Donc là, pour le coup, ces économistes se sont emparés du sujet et ont dit, bah non, c'est la preuve que ça marche pas. Et puis en plus, on crée une trappe à pauvreté, hein, c'est-à-dire que les gens sont pas incités, ils sont dans les minima sociaux parce que du fait de la cause de la trappe à pauvreté. Et alors, c'est intéressant parce que le terme trappe à pauvreté.
Oui, alors ça, c'est un concept qui a fait Flores, qui a été repris, qui trouve son origine dans des travaux d'économie, mais dont les usages ont été de plus en plus sauvages, en fait.
Oui, alors la trappe à pauvreté de façon originelle en fait, et lorsque vous si vous googlez poverty trap donc en anglais vous allez toujours avoir ce même sens. La trappe à pauvreté, c'est les individus ou souvent c'est en économie de développement des États, en fait, qui n'arrivent pas à sortir de la pauvreté du fait même de leur pauvreté. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à investir dans leur éducation, dans leur infrastructure, dans leur santé, dans la santé de la population. Et du fait même de ce sous-investissement, les États n'arrivent pas à sortir de l'extrême pauvreté.
Ça, et donc, c'est vraiment le concept de départ désigné, ça.
Voilà. Le concept de trappe à pauvreté, c'est un concept qui vient de l'économie du développement et qui désignait ça.
Et aujourd'hui,
la trappe à pauvreté en France, quand vous utilisez ce terme, ou trappe à bas salaire, ou trappe à promotion, c'est l'idée que les instruments qui sont censés venir vous aider, en fait, créent une trappe et vous désincitent à sortir de la pauvreté. De l'inactivité ou des bas salaires. Voilà.
Donc ça, c'est...
Donc, c'est plus la pauvreté, mais l'instrument qui vous enferme.
Ça, c'est intéressant du point de vue de la manière dont des concepts qui viennent de l'économie se trouvent utilisés par différents types d'acteurs sociaux, des responsables politiques, des journalistes, des gens qui travaillent dans des associations, pour finalement bouger. Là, on a pris l'exemple de trappe à pauvreté, mais il y en a d'autres sur lesquels vous travaillez dans le livre. Par exemple, vous revenez aussi sur l'idée, qui est un concept économique au départ, de panier percé.
Oui, alors ça, c'est une métaphore. C'est la métaphore de Kuhn qui dit, voilà, vous avez deux familles, s'il y en a une qui veut aider l'autre, eh ben, il faut qu'elle prenne l'eau et qu'elle aille d'un foyer à l'autre. Mais sauf que ce panier, il est percé. C'est-à-dire que l'aide, c'est un petit peu la rhétorique de la contre-productivité, hein, Hirschman qui est de l'effet pervers. Et donc là, il y a un autre effet. Donc, le panier est percé. Et donc, la famille qui va recevoir ce panier
aura beaucoup moins que ce qu'il y avait au départ.
Voilà, il y aura une perte. Et donc là, cette métaphore est utilisée pour un petit peu comme métaphore du modèle de redistribution et désincitation. La métaphore en fait est assez mauvaise parce que l'eau, lorsque le panier est percé, l'eau elle tombe par terre. Alors que si vous êtes désincité, c'est vous qui faites le choix. Du coup, de la pauvreté, quoi. Si certaines personnes font le choix de la pauvreté, ou en tout cas de l'inactivité. Et donc la métaphore déjà est pas très bonne. Et en plus, mais on peut regarder, effectivement. Alors, il y a deux problèmes dans cette métaphore. C'est que, premièrement, elle décrit assez mal ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la pauvreté, en règle générale, c'est pas des gens qui ont choisi de pas travailler, c'est des gens qui ont des obstacles en termes de santé, de formation, de logement, de mobilité. Et donc, les questions d'offres de travail qui existent, hein, ces questions peuvent exister, mais elles décrivent qu'une petite partie du problème. Et en plus, si vous après l'idée c'est de dire on va trouver un optimal entre redistribuer et pas trop désinciter. Mais l'idée serait de dire que si on redistribue quand même à des gens qui ont fait le choix de pas travailler. Et là évidemment c'est vraiment la plus mauvaise raison de défendre la redistribution finalement.
Alors Guillaume Allègre, je le disais tout à l'heure, vous êtes économiste et vous travaillez comme un économiste, mais vous avez un regard qui peut être assez critique, réflexif sur la manière dont les économistes sont sollicités comme experts, ce qui ne vous empêche pas, on va y venir d'ailleurs, de vous-même de proposer quelque chose à la fin du livre. Mais vous dégagez au fond dans votre livre trois manières d'être économiste et qui pose chacune finalement des problèmes. Vous dites l'économiste peut être pensé comme un plombier, comme un ingénieur ou comme un philosophe.
Voilà, donc plombier, c'est le commentaire d'Esther Duflo.
Ouais.
Qui dit, se revendique économiste comme plombier.
C'est-à-dire qu'elle veut régler les problèmes, les micro-problèmes.
L'économiste doit connaître les tuyaux. Donc, il faut connaître les tuyaux. Et effectivement, ça, c'est une réponse aussi à une dérive de l'économie entre les années 50 et les années 90, d'une économie qui est très théorique. Et le problème de l'économie très, très théorique, c'est
qu'elle est déconnectée.
Bah, évidemment, ouais. Et que les questions d'inégalité et de pauvreté, ils sont peu...
Passent à la trappe, sont mauvais.
Ouais, voilà, passent à la trappe. Ils sont peu traités parce que dans un modèle théorique, souvent, il n'y a pas d'inégalité si vous avez un agent représentatif. Et donc, dans ces modèles théoriques, il n'y a pas d'inégalité. Et dans ces modèles théoriques, il n'y a que des comportements économiques. Et finalement, la pauvreté est assez peu une question économique au sens restreint du terme des comportements. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix. Donc, si vous pensez que l'économie est une science comportementale et que finalement les pauvres choisissent d'être pauvres, ben là, vous n'allez pas décrire la réalité. Donc, ça ne va pas marcher.
Donc Esther Duflo, c'est un peu en réaction à ce discours.
Voilà, donc il y a un tournant empirique au début des années 2000. Donc Esther Duflo, mais il y a aussi David Card qui va regarder ce qui se passe lorsqu'on augmente le salaire minimum dans un État et pas dans l'autre juste à côté. Donc qui montre que finalement, même dans l'État où on l'a augmenté, ça a augmenté l'emploi et donc que le SMIC n'est pas forcément contre-productif en termes d'emploi. Il peut y avoir moins d'inégalités et plus d'emplois, donc on n'est pas dans une frontière de possibilités entre emploi ou d'arbitrage indépassable entre plus d'emplois et moins d'inégalités. Donc voilà, donc c'est ça, l'idée c'est d'aller regarder un peu de façon plus empirique, à la fois de façon plus empirique et en connaissant effectivement les mécanismes et ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc ça c'est l'économiste comme plombier et qui s'oppose finalement à l'économiste comme ingénieur ou mathématicien dans la vieille tradition de l'économie qui se veut comme une science naturelle en fait.
Ça c'est un peu ce que vous décriviez comme ce à quoi a répondu l'économie empirique développée par Esther Duflo. C'est-à-dire, voilà. Mais ça ne veut pas dire que cette économie-là qui existait dans les années 50-60 s'est arrêtée, bien au contraire. C'est-à-dire que cette ambition d'une science économique globale, totale, elle continue d'être assez puissante et elle a des représentants aujourd'hui fameux.
Voilà. Et alors, donc, économie comme plombier, économie comme ingénieur, et après aussi économie comme philosophe. Et donc là, c'est dans la tradition, c'est une autre tradition, hein, donc, d'Adam Smith à Amartya Sen, hein, par exemple, c'est des économistes qui sont à la fois, enfin, qui sont, pour Adam Smith et un certain nombre d'économistes britanniques à l'époque, qui sont dans des départements de philosophie, en fait.
Ouais, à l'époque, il n'y avait pas tant de différence que ça entre ces disciplines, il y avait moins de différenciation entre les savoirs.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'Amartya Sen, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans cette émission, est à la fois philosophe et économiste et a poursuivi cette tradition avec des concepts comme capacité, par exemple.
Exactement. Et donc, ce que je dis, c'est que si on veut faire de l'économie normative, il faut à la fois poser et répondre, finalement, à la question du pourquoi, et donc être un peu philosophe moraliste. Il faut aussi connaître les tuyaux, donc être plombier, mais aussi savoir faire les calculs et donc être ingénieur également. Donc il faut mêler ces trois aspects pour répondre à la question normative du comment, en fait.
Et pour bien être conscient du fait qu'on est à la fois descriptif et normatif, quoi qu'il arrive, en fait. Ça, c'est extrêmement important. Et vous ne vous dérobez pas, je l'annonçais, Guillaume Allègre, dans ce livre, puisque vous le terminez, cette enquête sur la question des revenus, du revenu minimum ou du revenu universel. Il y a aussi l'aspect de savoir si ce revenu doit être versé à une personne ou à un foyer. C'est très important parce que là, il y a des dimensions féministes qui sont venues enrichir la réflexion sur ces questions-là. Vous citez les travaux de Nancy Fraser en particulier. Mais à la fin de votre livre, vous proposez quelque chose.
Alors, effectivement, je propose en partie de revenir à l'esprit de 89, hein, de 1989, du RMI, l'année où il a été mis en place, mais de tenir compte, finalement, il y a quand même de ce qui a été fait depuis. Donc, c'est quoi? C'est dire que le revenu minimum d'insertion, à l'époque, si on écoute revenu minimum d'insertion, c'est le revenu qui insère. C'est-à-dire que c'est vraiment cette idée qui était à l'époque dans le projet de loi qui était écrit, c'est que, eh ben, on a besoin d'un revenu pour insérer. Et cette insertion sociale et professionnelle, on a besoin de capacité, comme vous dites, comme dit Seine. Et donc, l'idée que c'est la pauvreté qui elle-même, qui crée sa propre trappe,
Ça, c'est une manière de sortir de la trappe. C'est-à-dire, le simple fait de donner de l'argent, déjà, va, c'est le pari qui est fait par cette mesure, permettre à des gens de trouver des solutions pour sortir de cette situation.
Voilà. Et en tout cas, ils seront mieux. Parce que finalement, c'est l'idée, c'est aussi ça. Il n'y a pas de contre-productivité à leur donner, à leur donner plus.
Donc ça, c'était la philosophie du RMI.
Donc ça, c'est la philosophie du RMI. Ensuite, c'est vrai que ce qu'on a fait avec le ERSA, c'est qu'on a dit, on a donné des incitations à travailler, même à temps partiel. Ça, je pense qu'on peut le garder, mais pas pour les raisons pour lesquelles c'est défendu parfois par les économistes, parce que évidemment, lorsque vous augmentez les incitations à travailler à temps partiel, vous allez les baisser un petit peu pour le passage du temps partiel au temps plein. Donc l'effet incitatif sur l'emploi, il est tout à fait ambigu. Et puis lorsque vous mettez les primes, ce qu'on a fait avec la prime, donc ça c'est ce qu'on a fait avec le RSA, et après avec la prime d'activité, on a mis des primes aussi au niveau du SMIC. Et donc elle est maximale au niveau du SMIC. Alors maintenant on dit oui, mais ça crée une trappe à bas salaire au-delà du SMIC. Alors évidemment on repousse tout le temps le problème. Il y a toujours une trappe parce que effectivement lorsque vous augmentez les incitations à un endroit, vous allez les baisser au-delà lorsque la prime va être réduite. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est que, du point de vue du mérite, alors là, vraiment avec des guillemets, mais du point de vue du principe qui pourrait dire que, si vous augmentez votre revenu d'activité, le revenu disponible de votre ménage devrait augmenter aussi. Si on prend en compte ce principe qui, il me semble, peut être facilement partagé par une majorité de la population, alors là, l'idée du RSA, de la prime d'activité, a du sens. Mais dans ce sens-là, dans le sens du mérite, dans un sens finalement distributif, plutôt que dans un sens incitatif.
C'est une mesure que vous qualifiez de social-démocrate?
Non, là c'était autre chose, c'était de dire que effectivement ça suffit pas. Tout ça suffit pas si on veut lutter contre la pauvreté. Finalement, c'est toute une stratégie de service de qualité
en de service public.
De service public, oui, de au service public. Donc en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de transport en commun, en termes de mobilité, pourquoi pas aussi d'accompagnement des personnes actives. Et donc là, c'est généralement, si on regarde au niveau global, au niveau macro, c'est les pays qui ont ces stratégies là qui ont les taux de pauvreté les plus faibles et les taux d'emploi des peu qualifiés les plus élevés aussi.
Vous pensez que une proposition de ce type pourrait aujourd'hui rencontrer le même type de succès que le RMI en 88, c'est-à-dire être votée à l'unanimité? Parce que quand même, ce qui s'est passé depuis 1988, ça remonte, c'est une montée en puissance de la critique de, je mets des guillemets, je cite, l'assistanat qu'on a beaucoup, beaucoup entendu, en fait.
Oui, alors voilà, exactement. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut pas cibler non plus toutes les politiques sur les pauvres. C'est-à-dire que les politiques qu'il faut mettre en place, probablement, pour la plupart, celles qui vont in fine sortir un certain nombre de personnes de la pauvreté, c'est des politiques qu'il faut faire pour tout le monde. Ça, c'est le paradoxe de la redistribution, c'est que quand on cible pas les pauvres, souvent, et notamment sur les politiques publiques d'éducation, transport, qu'il y a le moins de pauvres. Parce que justement, justement, on sort de l'arbitrage dont on parlait, de dire, bah non, mais si vous ciblez les pauvres, les gens vont vouloir rester pauvres. Mais alors, faisons de l'éducation de qualité pour tout le monde, et de la santé publique, et des logements, et des transports publics. Et c'est comme ça qu'il y aura moins de pauvres, en fait.
Comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale, c'est le titre de votre livre, Guillaume Allègre. On continue d'en parler dans la seconde partie de l'émission, tout en parlant aussi des textes littéraires, des poèmes de Natio, qui nous rejoint. C'est après un extrait du nouvel album de Granddaddy, Water Cooler. On parle de pauvreté aujourd'hui à la suite dans les idées, comme le veut l'émission. On aborde la question à travers la création artistique et en cherchant, je me suis fait la réflexion qu'il y avait assez peu d'œuvres au fond autour de cette question ces dernières années, alors qu'elle a été à l'origine de grands livres de Robert McLean Wilson, de William Volman, des enquêtes littéraires sur la pauvreté. Alors certes, on a reçu à la suite dans les idées il y a quelques mois maintenant Hervé pour un texte impressionnant d'un SDF, d'un journal, mais c'est assez rare. Mais les choses tombent bien. Actualité éditoriale, deux livres paraissent coup sur coup aux éditions de la Contre-Allée, signé Natio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes poète et vous publiez donc à la Contre-Allée, qui était déjà votre éditeur, ces deux volumes dont l'un en particulier, Bonjour, suivi de Hot Dog, résonne très fort avec ce dont on a parlé depuis le début de l'émission.
Oui, tout à fait. Alors, je ne me suis pas situe pas tout à fait au même endroit de ce qui a été dit, même si c'est très intéressant et ça porte à réflexion. J'ai quand même noté des mots « trappe à pauvreté »,« mérite », et voilà, sur lesquels il faut réfléchir. Mais je travaille davantage, en fait, sur le regard que l'on porte sur les pauvres. Sur l'invisibilisation, enfin disons l'invisibilité, voire la transparence de leur état. Et c'est même flagrant dans la société, voire choquant. Et c'est ce que je questionne dans ces deux textes-là. Bonjour et Hot Dog.
Invisibilité, y compris littéraire, je le disais, il n'y a pas tant que ça d'écrivains qui se saisissent de la question en ce moment.
Oui, donc ces textes ont été portés à la scène, donc avec les protagonistes, pour Hot Dog avec des femmes SDF et pour Bonjour avec des femmes de ménage. Et c'est vrai que bon, on a pas mal joué parce que j'ai été très soutenue, mais on reçoit très vite ce regard de c'est pas très porteur la pauvreté, ça n'intéresse pas forcément, voilà, il faut des choses joyeuses, alors que dans ces textes il y a aussi de la joie parce que ces gens-là sont aussi joyeux, ils ne sont pas des malheureux, ils sont plutôt des malchanceux en fait, et c'est ce sur quoi je voulais revenir quand on parlait de ce RSA avec conditionnalité. C'est à mon avis ne pas prendre en compte en fait la vulnérabilité de certains qui ont fait on est dans une société je pense où on n'a pas forcément droit à l'erreur et donc certains tombent et en fait bon voilà, il y a certaines personnes qui ont des incapacités psychiques et physiques et donc moi en fait je suis plutôt ce dont parlait Guillaume Allègre, le plombier, c'est-à-dire que je vais voir sur le terrain, voilà, c'est plutôt, et donc je prends en considération en fait, voilà, c'est plutôt me tendre la main par solidarité, mettre ma pratique d'écriture en fait au service d'une attention, d'une écoute aux autres, voilà, d'une considération.
Vous pourriez nous lire un extrait de Bonjour ?
Avec plaisir. Donc je lis le début. Je m'appelle Éponge, ponge, ponce, pense, pande, bande, bonde, boude, bouge, bouche, boucha, bouchera. Je m'appelle Bouchera. Je suis femme de ménage. Quand je travaille, je disparais. Pas la peine que je fasse des signes. Avec la main, avec les dents, le sourire, pas la peine. On ne me voit pas. On regarde mon travail, mais pas moi. Je peux croiser des gens toute la journée, mais eux ne me croisent pas. Personne ne me voit, sauf les enfants. Mais il faut qu'ils soient des tout-petits. Les tout-petits me voient. Sinon, non, on ne me voit pas. Nettoyer chez les autres, voilà. Nettoyer les miettes des autres, voilà. Tous ces petits déchets qu'ils laissent derrière eux, en foutoir, en vrac, à l'abandon, pour moi, que je ramasse, je range, je nettoie, je rends net, quoi, je nette toi. Toi et tes déchets que tu laisses derrière toi, je nette toi. Voilà. Femme de ménage, on le dit plus. Pourquoi ? Je sais pas. On dit agent d'entretien. Pourquoi ? Je sais pas. Agent, c'est pas terrible. Ça fait penser à un homme et à un homme flic. Monsieur l'agent. Alors pourquoi ça a changé ? Je sais pas. On veut nous faire croire. On veut nous voiler la face. On veut nous cacher derrière des mots qui sont les leurs, pas les nôtres. Le soir, la fatigue, ça tombe. Ouh là là, comme ça tombe. Partout, ça tombe comme des bombes. Sur toutes les parties du corps, ça tombe. Et tous les soirs, c'est la même chose, ça tombe. Mais ça ne fait pas de bruit, comme les bombes. Le bruit de la fatigue n'existe pas. La fatigue est silencieuse. Elle tombe en silence, comme une bombe, sans le bruit.
Guillaume Allègre, on est loin des chiffres des économistes.
Oui, exactement. Ouais. Non, c'est très beau. Et ce que je veux dire, c'est que la poésie, ça nous montre ce qui est finalement devant nous, quoi. Et que c'est pas l'invisible, c'est l'inregardé ou l'inregardable. Alors que l'économiste, finalement, c'est très différent. C'est la science de l'invisible, c'est la main invisible qui va faire que le marché va vous faire votre pain et votre steak. Et donc c'est vraiment deux disciplines qui sont complètement orthogonales, on va dire.
Natio, c'est vrai que plus que l'invisible, c'est le non-vu, c'est ce qu'on ne veut pas voir, en fait, parce que, vous le dites, les tout-petits, eux, ils voient avant d'être socialisés à ne pas voir.
Voilà, tout à fait. Cette histoire des tout-petits, c'était pour dire que, voilà, avant d'être dans un cadre, dans une norme qui fait que on ne veut plus voir ces personnes-là, on peut les voir quand on est tout-petit. Et la poésie, c'est souvent à travers ces yeux-là qu'elle est faite, en fait, celle des enfants. C'est regarder de très loin, de très haut, en fait. On est éclairé par la poésie pour voir d'un autre endroit. Voilà, c'est une autre vision, effectivement, que l'économie.
Vous qui, j'imagine, observez, tentez de regarder ces situations en étant le plombier littéraire dont vous parliez tout à l'heure depuis quelques années, est-ce que vous avez vu les choses évoluer dans le sens qu'on décrivait avec Guillaume Allègre, c'est-à-dire d'une montée en puissance de la critique de la cistanat, de la recherche de nouvelles conditionnalités à tout prix pour donner ce revenu?
Oui, mais on le voit tous, puisque il y a de plus en plus de gens sans domicile, les Restos du Cœur ne s'en sortent pas. On voit que la société demande beaucoup à des gens qui ne peuvent pas donner, en fait, qui ne peuvent pas avoir le mérite d'un salaire universel, enfin du RSA. Donc oui, effectivement, et c'est une grande crainte, en fait, ce danger de l'indifférence à l'autre, parce que en fait, voilà, il faudrait plus de plombiers, en fait, pour aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain, et qu'il y a une grande vulnérabilité de ces gens, et leur demander de rendre quelque chose à la société, je crois que ce n'est pas le bon système pour qu'il y ait moins de pauvres.
Davantage de plombiers, mais aussi de gens qui, comme Natio, Guillaume Allègre, donnent à voir ces réalités sociales. Vous parliez tout à l'heure, au début de l'émission, de la bataille culturelle. Au fond, ce qui est en jeu, c'est aussi la question de la représentation de la pauvreté. Représentation qui ne peut pas être simplement le fait de statistiques ou de mesures chiffrées.
Mais peut l'être aussi.
Elle peut l'être aussi. Il faut multiplier les mesures, voilà, en fait. C'est les représentations.
C'est discipline. Mais effectivement, il faut aussi dans la discipline économique aussi plus de pluralité de gens qui viennent d'un petit peu partout et qui vont venir apporter plus de points de vue, parce que effectivement, le point de vue il est souvent assez uniforme. Mais voilà.
Davantage de pluralisme. Merci. Merci Natio. Je rappelle les titres de ces deux livres qui paraissent en ce moment. Bonjour, suivi de Hot Dog, et puis Le Bercail, les deux donc publiés aux éditions La Contre-Allée. Et puis Guillaume Allègre, Comment verser de l'argent aux pauvres, dépasser les dilemmes de la justice sociale, un livre qui paraît aux presses universitaires de France. Vous trouvez les références bibliographiques de ces trois ouvrages sur la page de la suite dans les idées, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, la technique aujourd'hui Noé Chaban, à la réalisation Anne-Laure Chanel.